Bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans cet épisode d'Entreprendre dans la Santé, j'ai échangé avec Cyril Thor, le cofondateur d'Innovarion, un centre de recherche en sciences du vivant qui accompagne ses clients à chaque étape de leur projet de recherche. Cyril a également cofondé Elsie, une société qui a développé un tracker métabolique et une application mobile qui permettent de mesurer en temps réel son métabolisme et permettre à leurs utilisateurs d'obtenir des recommandations personnalisées et prédictives afin qu'ils puissent adapter son mode de vie en fonction de ses objectifs, donc que ce soit de la perte de graisse, de la prise de masse musculaire, etc. J'ai bien aimé enregistrer cet épisode avec Cyril qui vient du monde de la recherche, car il a lui-même écrit une thèse en cardiologie avant de se lancer progressivement dans le monde de l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, Cyril nous explique quel parallèle faire entre la recherche et l'entrepreneuriat, comment une entreprise du privé peut-elle contribuer à la recherche, comment développer son avantage comparatif quand on entreprend dans un marché compétitif en santé. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé, je suis avec Cyril Thor. Salut Cyril.
Salut Jean-Baptiste.
Comment tu vas?
Plutôt bien, écoute.
Ouais, bah écoute, la forme. On rigole parce qu'on a eu un petit cafouillage de début d'enregistrement. Du coup, c'est la deuxième fois qu'on l'a fait. Du coup, Cyril, aujourd'hui, on va passer 45 minutes. Tu vas revenir sur ton expérience entrepreneuriale, de la création d'Innovarion et d'Elsi, qui est un peu la concrétisation d'un des projets qu'Innovarion peut faire naître. On va commencer par revenir sur qui es-tu, où tu as grandi, quelle formation tu as suivi, et puis après on va aller plus sur ton expérience vraiment dans la santé, si tu as travaillé dans une boîte avant, si tu as fait de la recherche, et ensuite ton expérience entrepreneuriale pure et dure, quel challenge tu dois surmonter actuellement, quel impact tu vas avoir sur le secteur de la santé, etc. etc. C'est parti. Okay.
Parfait, ok.
Je te laisse te présenter. Qui es-tu, Cyril? D'où viens-tu? Et qu'est-ce que tu fais dans la santé?
D'où je viens? De Corse. Donc, okay. D'ailleurs, le siège social de Elsi est basé en Corse. C'était vouloir développer un peu une entreprise technologique et dans les biotechnologies en Corse. Ça me tenait à cœur. Donc, j'ai passé toute ma scolarité en Corse jusqu'au bac. Ensuite j'étais à Montpellier puis Paris, donc fac de bio puis l'ENS à Paris, et ensuite un doctorat en cancérologie, donc okay. Plutôt un profil orienté recherche, parce que ce qui m'intéressait c'était comprendre les mécanismes, être à la pointe de ce qui se faisait, et donc être le premier à découvrir quelque chose, à publier et à pouvoir proposer des solutions et des innovations. Donc, c'est ce qui m'a motivé, en fait, tout au long de mes études.
Bon, je pense que tu as résumé ça très, très bien et rapidement. Pour revenir un peu sur tes études et un peu toi, donc, tes traits de personnalité, tu nous as donné une idée, là. Il y avait quelqu'un dans ta famille qui était dans la santé ou dans la recherche? Comment ça t'est venu un peu tout ça? Parce que la recherche, moi, je vois actuellement, je sais pas quel âge tu as, mais je pense qu'on n'a pas une... tu me parais pas beaucoup plus...
J'ai 35 ans quand même.
Ouais, mais tu vois, nous, la recherche, c'est, je veux dire, c'est pas quelque chose forcément où on se dit on va s'orienter dans cette direction. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, en fait?
Bonne question. Non, j'avais personne dans mon entourage qui était dans la recherche. Je pense que c'était vraiment cette envie déjà d'être libre. C'est ce que okay. j'imaginais de la recherche. C'était le côté liberté, le côté pionnier et faire constamment quelque chose de nouveau. C'est-à-dire ne pas appliquer quelque chose. Et c'était une vision probablement biaisée que j'avais d'autres formations et d'autres professions. C'était de me dire, finalement, on apprend quelque chose en quelque sorte et ensuite on l'applique et on peut assez vite s'ennuyer et tomber dans la routine. Et ce que je voyais dans la recherche, c'était l'opportunité en fait d'avoir tout un tas d'outils à notre disposition et de trouver des solutions et surtout d'apporter des réponses théoriquement concrètes et en se disant bah, j'ai un pouvoir d'influer sur la société pour l'amélioration, surtout en sciences du vivant, donc dans la santé, parce que c'était ce qui me passionnait. J'ai aimé depuis tout petit la génétique, c'est ce type de choses. Et donc c'était vraiment cette volonté de contribuer, d'apporter ma pierre à l'édifice et de me dire bon bah tiens, je vais pas simplement appliquer ce que j'ai appris, mais je vais vraiment proposer des choses nouvelles.
Ok. Et quelle place a eu un peu ta formation du coup dans ton début de carrière? Quel a été un peu l'impact de tes études pour la suite? Parce que donc tu dis que tu avais un peu une idée biaisée de ce que pouvait être, on va dire, le monde pro peut-être en entreprise ou les autres formations. On va dire, est-ce que ça a fait changer ton point de vue là-dessus? Parce que j'imagine qu'il y a un parallèle qui peut être fait avec la recherche où on se dit, on cherche la liberté, mais en fait, on a quand même beaucoup de contraintes, j'imagine, dans la recherche. Tu vas me dire si je me trompe ou pas. Mais c'est un peu la même. Enfin, si on peut faire un parallèle avec l'entrepreneuriat où il y en a beaucoup qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est une forme de liberté, et, alors qu'en parallèle, on se retrouve avec énormément de contraintes également. Quel a été un peu ce shift, si on a eu un?
Alors oui, c'est exactement ça. Donc, pendant ma thèse, ce que je recherchais, c'était la liberté, l'impression justement d'être pionnier et de pouvoir influer en toute modestie et à mon échelle, mais sur le monde et sur les découvertes, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on est très contraint, qu'au final, il y a une partie du travail qui peut être assez répétitive, que finalement, on n'a pas tant de liberté que ça d'action parce qu'on est aussi contraint par des demandes de financement, par le temps. Ce qui me plaisait beaucoup finalement, c'était la conceptualisation. Et après la réalisation, on était souvent confronté à des problèmes techniques. Les problèmes techniques, les résoudre, c'était pas forcément ma passion, parce que moi, j'estimais que c'était pas là que j'avais le plus de valeur ajoutée. Et finalement, on pouvait perdre beaucoup de temps entre ce qui avait été conçu, puisque une thèse, c'est quelque chose qui va durer pendant 3 ans, on travaille sur un sujet. Donc, au début, on fait de la bibliographie, on va lire, on va concevoir un projet, on s'imagine avoir une réponse, et ensuite on va se rendre compte que finalement on peut passer 6 mois, 1 an sur un détail technique qui paraît évident et qui remet en cause tout le projet. Donc ça apprend beaucoup la résilience, mais on se rend compte que finalement on est très contraint et que tout met beaucoup de temps, et que finalement, en tout cas au démarrage, on dépend beaucoup des directives publiques, puisque ce sont les sujets à la mode en ce moment qui vont être être poussés, qui vont être financés. Donc c'est comme partout finalement, la vie, oui, l'entrepreneuriat, la recherche, ça se ressemble beaucoup, et c'est justement moi ce qui m'a poussé vers la recherche, cette volonté de liberté, cette volonté d'être pionnier et d'innover. Alors le terme est un peu galvaudé maintenant, donc ça me fait un peu mal de l'utiliser, mais en tout cas c'était cette volonté là que j'avais. Et au final, pendant ma thèse, je me suis rendu compte que je pouvais retrouver tout ça, et même plus, dans l'entrepreneuriat, puisque ça me permettait au contraire d'avoir plus de leviers sur la direction qu'allait prendre la recherche, puisque à partir du moment où j'étais capable de trouver des financements et de poser les premières briques, j'allais pouvoir ensuite avoir un effet d'entraînement et donc développer des projets et finalement réaliser la recherche qui me plaisait, et avec beaucoup plus de liberté que ce que j'aurais eu dans la recherche. Alors après, c'est probablement faux, puisque je suppose que dans la recherche aussi, à un certain stade, on a une certaine forme de liberté, mais je me suis plus retrouvé dans l'entrepreneuriat et avec la même logique derrière. C'est-à-dire que pour moi, ce qui était important, c'était d'avoir des concepts et de pouvoir jongler avec pour arriver à résoudre un problème. Donc le problème, ça va être le marché dans le cadre de l'entrepreneuriat, enfin la problématique que l'on souhaite résoudre et après mettre sur le marché. Et dans la recherche, ça va être la publication, trouver la molécule qui va permettre de traiter une pathologie, ou juste comprendre les mécanismes moléculaires, par exemple, qui m'aident au développement du Covid. Donc ça va être le raisonnement est le même, sauf que j'avais l'impression d'avoir plus de moyens d'action dans l'entrepreneuriat. Okay. Ça, je pense qu'il y a une assez bonne connexion entre les deux.
Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet de ta thèse? J'imagine pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études de médecine ou en cardiologie, tout ça, ça va être un peu compliqué, mais si tu peux faire un peu de vulgarisation pour nous donner un peu de contexte sur ton expérience entrepreneuriale par la suite.
Oui, alors moi je travaillais sur le carcinome hépatocellulaire, donc le cancer du foie. Donc on travaillait chez le modèle murin, c'est-à-dire la souris. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on avait ce qu'on appelle des OGM, donc organismes génétiquement modifiés, des lignées de souris pour lesquelles certains gènes avaient été modifiés, dans lesquelles on pouvait induire des cancers du foie donc de façon plus facile. Et ensuite, une fois qu'on avait activé cette voie de signalisation, on faisait une analyse des gènes qui étaient activés, donc analyse de tout ce qui est ARN, on en entend beaucoup parler avec les virus ARN, surtout en ce moment, et donc on analysait ça pour comprendre parmi tous ces gènes qui étaient activés, lesquels allaient avoir une influence sur le développement du cancer, et donc sur quels gènes on allait pouvoir agir de façon à empêcher la progression d'un carcinome hépatocellulaire. Puisque l'intérêt du modèle murin, c'est ensuite de pouvoir tester, bien sûr, sur des lignées cellulaires humaines et ensuite de pouvoir appliquer ça à l'homme.
Ok,
Donc
super. Ouais,
c'était très
c'est
moléculaire et génétique.
d'accord. Ok. Et donc, tu as terminé cette thèse en quelle année?
Bonne question. Je pense que c'était 2011 ou 2012.
D'accord. Et tu es satisfait de ton travail
Alors oui, j'étais très satisfait. J'étais content de moi, il y a eu des publications,
Ouais.
etc. Par contre, bien sûr, vu que c'était de la recherche fondamentale, il y a toujours cette frustration de ne pas être allé au bout. C'est-à-dire qu'on va décrypter des mécanismes moléculaires, mais ensuite, généralement, donc, il y a la partie qui décrypte les mécanismes moléculaires, et ensuite, avant que ça soit appliqué et que ça puisse être transformé en thérapie ou en concept utilisé en médecine, il va y avoir 15-20 ans.
Ok, donc toi t'as
Et donc,
décidé d'aller beaucoup plus vite que ça.
j'ai décidé d'aller plus vite et de me dire finalement, voilà, c'est très intéressant, mais ça prend beaucoup de temps et j'ai envie de voir autre chose et potentiellement de me donner la possibilité de réaliser ma propre recherche.
Ok, bon, c'est intéressant. Et donc les débuts, en gros, comment ça s'est fait? Comment tu t'es lancé un peu? Donc on a compris là, je pense, ton état d'esprit. Mais concrètement, ça ressemblait à quoi? Qu'est-ce que tu as fait juste après cette thèse jusqu'à ton début dans l'entrepreneuriat et la création de ta première entreprise?
Alors, juste après ma thèse, j'ai choisi une solution de facilité. Parce que ce qui se passe généralement, donc après une thèse, on fait ce qu'on appelle un post-doctorat. Donc,
Ouais.
on va être en CDD dans des laboratoires pendant lesquels on va mener d'autres projets de recherche et en espérant ensuite obtenir un poste, donc pour la carrière universitaire en tout cas, un poste de fonctionnaire, donc au CNRS, à l'INSERM ou à l'université. Donc, moi,
OK.
ça, j'avais compris que ça ne me convenait pas. Parce qu'il y avait beaucoup d'aspects dans la recherche publique qui ne me convenaient pas. Et donc, l'entrepreneuriat me tentait. Par contre, ce qui me faisait, j'avais pas spécialement d'idées, et ce qui me faisait un peu peur, c'était de me lancer dans quelque chose pendant 10-15 ans avant d'espérer le mettre sur le marché. Ce qui était globalement
Dans
l'échelle
dans la
de
santé
temps dans la santé et surtout dans les biotech, puisque moi,
ouais
j'étais
dans les
plus
biotech c'est
biotech que véritablement en santé, comme on peut voir tout ce qui est e-santé maintenant,
ouais
qui peut avoir un développement plus rapide.
ouais
Donc, en fait, je me suis rapproché d'un laboratoire en physique fondamentale, donc je restais dans le domaine que je connaissais, la recherche, pour créer une start-up, donc en fait de l'électronique fondamentale qui avait pour vocation d'améliorer la capacité des disques durs. Donc, très loin
Pardon, de la capacité des...
de stockage des disques durs.
Ok, carrément.
Donc, c'était du traitement de surface
Donc là, on n'est
avec
plus du tout dans l'humain, quoi.
plus du tout dans l'humain. Le seul rapport, c'était le domaine de pointe et la recherche. Et c'est se dire finalement, j'avais plutôt un rôle de transfert de technologie. Il y avait des brevets du CNRS. J'avais un associé qui lui était chercheur au CNRS. Et donc le rôle, c'était de monter la société et de mettre ça sur le marché. Donc
Ok.
ça a duré globalement 2 ans. On a créé la société, on a levé des fonds.
Ça s'appelait
Et
comment?
ça s'appelait Silten.
Silten, ok.
C'était source d'ions légers pour le traitement et l'étude de nanostructures.
Ok.
Donc c'était très, très technique.
Ouais.
Et là encore, je me suis rendu compte que c'était bien parce que ça m'a donné toutes les bases de l'entrepreneuriat. Et si tu veux, ça m'a donné confiance pour voir que je pouvais gérer tous les aspects, que ce soit les demandes de financement, gérer les projets, développer un produit. Par contre, on était encore très en amont d'une solution à mettre sur le marché. C'est-à-dire qu'il restait encore au moins 10 ans avant de pouvoir sortir quelque chose, parce que c'était encore l'interface recherche publique et recherche privée.
D'accord.
Donc, lorsqu'on a levé des fonds, en fait, les investisseurs me demandaient de m'engager sur 5 ans. Et donc, ça ne m'intéressait pas trop.
Ouais. Ça veut dire t'engager sur 5 ans, ça veut dire que tu devais rester, toi, dans la boîte pour 5 ans.
Pour 5 ans.
Ok, c'est, ouais, c'est long. S'il n'y a pas de produit qui est déjà sur le marché, ça peut...
C'est long. Et surtout, ce n'était pas ce qui me passionnait. C'est-à-dire que j'avais fait ça pour me former pour une première expérience. Donc, c'était soit je revendais dès le départ, et tant mieux, c'était une bonne sortie, soit ça m'apprenait. Et ensuite, je me lançais dans quelque chose dans la santé. C'était un peu en attente de trouver ma propre idée parce que je valorisais beaucoup l'idée.
Ouais.
Alors, à tort, probablement.
Est-ce que ça, c'est un truc que tu conseillerais à un entrepreneur qui se lance? Parce que souvent, personnellement, ce que j'entends, c'est que quand tu te lances et que tu décides d'entreprendre, il faut que tu vois chaque boîte comme la dernière, comme si c'était vraiment la boîte que tu allais mener jusqu'au bout. Et pas la voir comme un passage, parce que sinon tu allais pas faire pas donner ton maximum, en fait.
Alors, ça c'est vrai, mais ça dépend vraiment de ta volonté. Disons que sinon j'aurais jamais monté la première boîte, parce que dès le départ je savais que le domaine me passionnait pas. Après, ce qu'il y a, c'est que finalement on est pris dedans. Donc peut-être que si très vite on avait eu une traction marché, si on avait été capable de commercialiser ça, etc., ça m'aurait passionné, je serais resté jusqu'au bout, parce qu'au final, de toute façon, quel que soit le domaine, ce qu'on va faire après, c'est du juridique, de la stratégie, et finalement, ça a très peu de rapport avec le domaine d'intérêt. Par contre, il faut quand même que ça passionne. Et moi, dans ce cas-là, ce qu'il y a, c'est que ça paraissait plus utilitaire, parce que c'était le domaine du stockage numérique, donc les disques durs. C'était un marché qui était dominé par Seagate, Western Digital, etc. Et nous, on était seulement une brique technologique. Donc, ça aurait été illusoire de penser construire un géant du disque dur et remplacer les disques durs dans tous les ordinateurs portables. Par contre, ce qu'on pouvait être, c'était un nouveau standard de traitement. Donc, c'était vraiment une étape dans la chaîne industrielle, et c'était plutôt une revente de brevets ou la fourniture d'un équipement technologique. Et c'est là où, effectivement, une fois qu'on a commencé à monter le business plan et à se rendre compte que c'était la seule vision qu'on pouvait avoir de la société, j'ai commencé à réfléchir à monter ma boîte, et surtout, j'avais jamais oublié l'idée de monter quelque chose dans la santé, parce que c'était ce dont j'avais envie. Et c'était ce qui me passionnait véritablement.
Okay. Ouais, parce que c'est, je vais pas dire que c'est étrange, mais c'est particulier d'écrire une thèse en cardiologie et après de basculer sur des disques durs. Et en même temps, dans l'entrepreneuriat, enfin, c'est un gros changement, je pense. Moi, j'aurais plus une question plutôt pour la partie entrepreneuriat, c'est comment tu t'es formé toi alors que tu venais faire de la recherche sans aucune base en business, j'imagine.
Oui.
Comment tu as appris, tu nous as parlé de business plan à l'instant, c'était quoi les éléments qui t'ont permis de te former?
Alors, j'ai eu de la chance, disons, vu que c'était à l'interface recherche publique et création d'entreprise, c'était quelque chose qui était très poussé à ce moment-là, enfin très mis en avant, et qui l'est toujours d'ailleurs de plus en plus. Et donc, si tu veux, il y avait... avec ça, des financements qui m'ont permis de me former à Centrale et à HEC sur la partie entrepreneuriale. Okay. Donc, si tu veux, c'était un peu... on aurait pu considérer ça comme un projet qui me permettait de concrétiser ça. Donc, tu vois, pendant la formation, tu as ton projet de création d'entreprise et quelque chose qui fonctionne. Tu vas avoir des investisseurs, tu arrives à avoir des financements, que ce soit au niveau de BPI, etc. Tu comprends tous les enjeux et tu dis, finalement, c'est pas éloigné de la recherche, parce que on jongle avec des concepts, on trouve des solutions, et moi, ce qui me plaisait dans la recherche, c'était cette agilité intellectuelle. Et finalement, plus que d'aller dans le détail d'un projet, c'est avoir la vue d'ensemble et essayer de mettre tous les éléments de façon à ce qu'ils s'imbriquent et à construire quelque chose d'intéressant.
Ok. Et ça se concrétise par la revente d'un brevet, du coup?
Non, pas du tout. Ça se concrétise par une liquidation de la société.
D'accord, ok.
Parce...
L'autre voix.
Voilà. Donc, l'avantage, c'est que la décision a été prise assez vite parce que justement, moi, il fallait que je m'engage pour lever des fonds. Les brevets, c'était des brevets très anciens du CNRS, du coup, qui n'avaient pas forcément énormément de valeur. Il fallait encore développer longtemps sous couvert du laboratoire de recherche. Et moi, je n'avais pas envie de passer 5 ans de plus
Ok.
de ma vie, entre guillemets, à faire ça. En parallèle, j'avais créé Innovarion. Donc, en me disant,
Ah,
voilà, j'ai un moyen de retourner dans les sciences du vivant.
le mec avait déjà comment dire, de l'idée dans les esprits. Bref.
La suite dans les idées.
Ouais, la suite. Oh là là, si tu veux, ça fait 15 jours que j'ai pas enregistré un podcast.
La reprise, c'est difficile.
Ouais, c'est ça. Ok, et donc tu conduis cette boîte un peu dans le mur
Exactement.
jusqu'à la fin. Donc premier échec entrepreneurial et en même temps en parallèle tu montes Innovarion. Donc tu vas nous expliquer ce qu'est Innovarion, mais juste pour rebondir sur cet échec, ça se termine comment avec ton donc t'avais un associé, c'est ça?
J'avais un associé donc qui lui est resté à l'université
D'accord.
et qui a toujours été de toute façon fonctionnaire et directeur de recherche à l'université. Donc lui, c'était plus le projet de sa vie, je pense, qu'il a continué après en parallèle sous couvert de l'université. Donc il a pu continuer, mais c'est en fait juste la structure de valorisation privée qui était en fait un espèce de petit laboratoire privé. C'était pas encore totalement une entreprise dans le sens où il n'y avait pas encore de marché, on
Ouais.
était encore très amont, et ça serait ce qu'on appelle les deep tech maintenant.
Ouais, oui, c'est vraiment de la recherche encore.
Mais
Ouais.
voilà, ça nécessitait encore 10 ans, et oui, j'étais pas la bonne personne pour continuer ça. Et l'avantage qu'on a eu, c'est que oui, il n'y avait pas de salariés, pas de dettes, enfin, ça a été réglé
D'accord. Ouais,
très, très
c'est.
simplement. Donc, si tu veux, même pour un échec, c'est un peu trop petit pour être valorisé, dans le sens qu'il y a la fermeture de la boîte, mais il n'y a pas eu de drame, de stress trop important ou de personnes laissées sur le carreau.
D'accord, ok. Et justement, toi, tu n'as pas du tout été laissé sur le carreau. Si en plus tu as monté en parallèle Innovarion, tu peux nous expliquer un petit peu quelle est l'idée à l'origine d'Innovarion, le besoin auquel tu souhaitais répondre?
Alors, Innovarion, c'était véritablement changer quelque chose qui ne nous convenait pas dans le monde de la recherche. Déjà, il y avait une précarité qui était très importante, et
Ouais.
c'est-à-dire que toutes les personnes étaient en CDD en espérant devenir fonctionnaires. Et du coup, il y avait même un mode de fonctionnement qui ne me plaisait pas, qui, moi, a fait que je ne me suis pas orienté vers la recherche et qui apparaissait un petit peu délétère. Du point de vue de mon entourage également, qui continuait dans la recherche, ou de mon associé qui, lui, était maître de conférence à l'université Pierre et Marie Curie, donc à Jussieu, pareil en sciences du vivant. Donc en fait, on s'est un peu se réunis sur cette problématique en se disant, ce qu'on aimerait, c'est faire de la recherche fondamentale, puisque ça nous plaisait, sans forcément que ça soit très appliqué, mais à notre façon, et finalement apporter une réponse avec des moyens différents. Donc avec dans l'idée d'avoir un centre de recherche privé. Au début, on voulait s'appeler centre de recherche privé ou CPRS pour centre privé de recherche scientifique, par analogie CNRS. Finalement, on s'est appelé Innovarion. Et c'était de se dire, on va essayer de changer ce qui ne nous convient pas. Donc d'avoir d'un côté nos projets de recherche en interne pour pouvoir donner lieu à la création de spin-off et potentiellement développer des marchés, des produits sur le marché. Et également faire de la prestation de services en sciences du vivant, c'est-à-dire aider des laboratoires, qu'ils soient publics ou privés, sur certaines problématiques de recherche pour aller plus vite. En fait, accélérer les projets en mettant en œuvre des ressources techniques, donc que ce soit humaines ou de l'équipement.
Ok, intéressant. Et donc là, tu es tout seul à te lancer là-dessus en parallèle de Silten.
Système.
Ouais.
Alors tout seul avec mon nouvel associé, donc Nicolas
Ouais.
Chignard, qui lui était à l'époque maître de conférence, donc fonctionnaire également. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois je m'associe avec un chercheur,
Ok.
donc qui avait un peu une stabilité de l'emploi. Et du coup, au démarrage en tout cas, ça permettait déjà d'être assez stable, d'avoir confiance pour le développement de la société. Mais d'un côté, il fallait aussi que la personne puisse à un moment se dire, ok, j'ai suffisamment confiance pour quitter le fonctionnariat et m'engager pleinement, parce que sinon, ça fonctionne pas longtemps. Quand la personne a un pied à l'université et un pied dans l'entrepreneuriat, ça peut être compliqué parce qu'on peut se sentir seul. Et c'est vrai que là, avec mon nouvel associé, ça a été très bien parce que très vite, il s'est impliqué entièrement dans la société. Et donc, on a pu développer ça assez vite. Donc, le démarrage a été un petit peu lent parce qu'on a créé en 2013. On a dû commencer à faire du chiffre d'affaires en début 2014. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on a commencé directement par de la prestation de service. Donc, comme ça, on n'avait pas besoin d'énormément de fonds.
Donc c'était vous qui vous délivriez des prestations de service, vous deux, ou il y avait quelqu'un d'autre qui travaillait pour vous?
Alors, nous, on a commencé déjà à délivrer des prestations de services en termes de conseils sur de la gestion de projet et justement la planification à faire. Et après, on a recruté le premier salarié en 2014.
C'est quoi le premier job que vous avez recruté, le premier poste?
Chercheur.
Chercheur.
C'était vraiment, on avait besoin de personnes qui mettent les mains dans le cambouis et qui vont permettre de développer les projets et d'accélérer ça.
Et comment on peut faire de la prestation de service en recherche sur des projets qui durent, je sais pas, des années et des années ça s'illustre comment?
Alors nous, on intervient sur des durées qui vont de quelques mois, 2, 3 mois, à plusieurs années. Donc on peut aller sur 2, 3 ans en termes d'accompagnement sur le projet, et on peut intervenir à différentes étapes du développement du projet. Et ce qu'il y a, c'est que dans les projets de recherche, donc qu'ils soient surtout pour les publics, puisqu'on a démarré avec une clientèle publique, qui était ce qu'on connaissait, donc pareil, le plus facile d'accès, ça va être des financements qui sont sur des durées courtes finalement. C'est des financements, ce qu'on appelle sur appel à projet, et donc qui vont être sur 1, 3 ans, jamais plus. Et à chaque fois, les chercheurs ont besoin d'apporter de nouveaux résultats, de déposer de nouveaux projets pour obtenir de nouveaux financements. Et donc, nous, on intervenait pour leur permettre d'obtenir de nouveaux financements, en fait, en réalisant, alors peut-être plus rapidement, avec une mise à disposition de ressources plus efficaces, et pour leur permettre d'avoir des résultats suffisants à la fois pour publier, donc pour faire grandir la renommée de l'équipe, et également pour obtenir de nouveaux financements, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le marqueur, c'est la publication scientifique.
Et donc, le business model fonctionne comment? Est-ce que ça ressemble à du conseil classique ou pareil, vous avez donc des chercheurs qui fonctionnent comme des consultants qui sont envoyés à la journée ou est-ce que c'est par projet? Ça s'illustre comment concrètement?
Alors, c'est plutôt par projet où on va mettre en place des équipes projet qui vont intervenir, donc qui peuvent travailler soit dans nos laboratoires, au cours du temps, donc on a grandi, on a acquis des locaux, on a acquis notre propre espace laboratoire, soit directement chez le client, et donc ils vont pouvoir intervenir en termes de conseils, mais aussi en termes opérationnels. Ce qu'on ne voulait pas, c'était justement avoir uniquement du conseil, de la conception de projet, mais ne pas réaliser. Parce que surtout en recherche, c'est assez facile, enfin en stratégie, dans tous les domaines. C'est facile de donner des conseils ou de concevoir des projets, mais ce qui est
Sans le faire.
important, c'est la réalisation. Et c'est
C'est
ce qui est
ça.
important aussi dans l'entrepreneuriat, et c'est ce qu'on découvre assez rapidement, c'est que finalement, des bonnes idées, tout le monde en a, mais après, ce qui compte, c'est
C'est la
plutôt la
réalisation.
réalisation. Ça, je
C'est
pense
ça.
que tout le monde le sait maintenant. On
C'est
l'apprend à ses
peut-être.
dépens au
Je crois que
départ.
c'est bien de le répéter, ouais. Non, mais c'est clair. Très bien. Et donc, vos premiers clients sont qui? C'est des labos de votre réseau à vous. Comment vous faites connaître au tout début?
Pas de réseau direct. Alors au début, on essayait le réseau direct. Ça fonctionne pas forcément. Et après, c'est on contacte les laboratoires. On voit ceux qui ont besoin, ceux qui acceptent cette idée en fait nouvelle dans la recherche de prestation de service et de se dire d'accord, sur certains points, je vais avoir besoin d'aide. Je n'ai pas forcément les ressources disponibles et donc je vais passer par un partenaire extérieur. Et ça, c'est vrai que ça a été assez long, assez difficile de faire évoluer les mentalités au départ, parce que c'était des mentalités justement très institutionnelles. Donc, ce n'était pas le mode de fonctionnement habituel. Et c'est vrai qu'après, assez rapidement, en fait, on a pu signer avec des laboratoires du CNRS, de l'INSERM, d'universités prestigieuses. On a pu passer par travailler également pour le Collège de France. Donc, actuellement, on travaille pour la majorité de ces instituts-là en France. On a plus de 60 publications, donc scientifiques, sur 7 ans de création d'entreprise. Et on est une cinquantaine de collaborateurs. Donc c'est vrai qu'on a après assez rapidement grandi, ce qui nous a permis aussi d'avoir les ressources nécessaires pour financer notre recherche en interne et pouvoir développer donc une spin-off avec Elsie, qui est plus celle dédiée à la santé et à la e-santé.
On va y arriver. Justement, ça m'intéresse un peu de comprendre. Donc, toi, tu avais cette casquette business grâce à ta formation centrale HEC, c'est ça ?
Oui.
Et c'est quoi ? Quel discours tu dois adopter pour toi pouvoir convaincre des gens, des chercheurs, c'est qui vos interlocuteurs ? Moi, en recherche, j'y connais pas grand-chose. C'est des directeurs de labo, c'est…
Alors, on a tout essayé. On s'est dit, bon, on va commencer par les directeurs de labo. On s'est dit, finalement, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir de décision, mais c'est plutôt le côté administratif.
D'accord.
Finalement, c'est assez centralisé. On a été voir les administratifs. Les administratifs ne nous recevaient pas forcément et surtout ne voulaient pas forcément entendre la solution qu'on avait à proposer parce que ce n'était pas eux qui ressentaient le besoin. Le besoin, il venait de la base, si l'on peut dire, qui va être le chercheur dans son laboratoire, qui parfois n'a pas les financements nécessaires, qui n'a pas les équipes nécessaires et qui a besoin d'aide, qui peut se sentir plus ou moins isolé. Et donc, c'est avec ces personnes qu'on a commencé et on s'est rendu compte qu'en attaquant par la base, finalement, c'était plus efficace parce que c'est eux qui en ressentaient le besoin et après, c'est eux qui poussaient vers l'administration de façon à faire accepter nos services.
Ok, vous remontiez la chaîne de maillon en maillon, quoi. Vers le... Ok.
Ouais.
Et ça, c'est toujours ce que vous faites actuellement ?
Ça, c'est toujours ce qu'on fait actuellement, sauf que maintenant, vu qu'on a quand même une place importante dans le paysage de la recherche en sciences du vivant, en fait, on est aussi pas mal contacté par le réseau parce que les gens ont entendu parler de nous et ils savent qu'on peut les aider à accélérer. Et donc ils nous contactent directement. Donc à la fois on a une approche commerciale vis-à-vis des laboratoires parce qu'ils continuent à se faire connaître, continuent à participer au salon, etc. Mais on a aussi beaucoup d'appels entrants et de personnes qui viennent directement nous voir parce que on a les publications scientifiques qui permettent de crédibiliser notre expertise scientifique.
D'accord, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Vous avez de la concurrence aujourd'hui en France ?
En prestation, oui. Après, ce n'est pas forcément les mêmes modalités d'intervention. Disons que quand on répond à des appels d'offres, il y a assez souvent 2-3 sociétés qui se positionnent. Mais après, ça va être ponctuel. Disons que le mode et ce côté centre de recherche privé et prestation de service, on ne le retrouve pas de cette façon. Par contre, selon les domaines, par exemple, quand on va être sur de la bioinformatique, on va être en concurrence avec tout un tas de sociétés qui font de la bioinformatique. Sur de la cancérologie, de la virologie, on va avoir aussi d'autres solutions, mais qui ne sont pas forcément matérialisées de la même façon. Donc, on n'a pas de concurrent direct. Par contre, sur chaque projet auquel on répond, là, on va avoir potentiellement des concurrents parce qu'on n'est pas les premiers à faire de la bioinformatique, on n'est pas les premiers à faire de la cancérologie. Par contre, on a une expertise qui est construite et un mode d'action qui est assez caractéristique. Et l'autre élément, c'est que maintenant, on est en train de construire justement une expertise forte où là, on a assez peu de concurrents, mais qui est sur la partie biocapteur, donc qui est l'expertise qu'on a créée pour Elsie.
Ouais, ok. Et donc, c'est intéressant, mais comment on peut arriver à être le premier ou le meilleur sur un marché où on a des concurrents dans toutes les spécialités, en fait. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y aura toujours un concurrent dans chacune des spécialités, mais il faut être bon partout et très fort sur quelque chose que ses compétiteurs n'ont pas. Et donc toi, tu dirais que c'est sur votre capacité de réalisation, du fait que vous avez cette structure privée qui est plus rapide, plus efficace ?
De réalisation et surtout au départ, on a commencé, on a grandi assez vite avec le marché des laboratoires publics. Donc le marché des laboratoires publics qui n'était pas forcément adressé puisqu'on a créé un peu ce nouveau mode de fonctionnement de prestations de services qui étaient assez peu utilisées, en tout cas sur les projets de recherche, qui étaient très utilisées, par exemple, sur des tâches extrêmement techniques, sur de l'animalerie, par exemple, pour la gestion des élevages de souris ou de macaques. Là, c'était bien accepté qu'il y ait de la prestation de service et de l'externalisation. Par contre, sur le côté recherche, ce n'était pas encore le cas. Et donc, on a fait accepter ça. Et pour l'instant, on n'a pas de concurrence directe là-dessus, pas de concurrence en tout cas identifiée clairement pour le moment.
Ok, d'accord. Et sur ces biomarqueurs ou biocapteurs, c'est quoi
Oui.
la différence entre un biomarqueur et un biocapteur?
Alors, le biomarqueur, ça va être ce qui va être la signature d'un état physiologique ou pathologique. Donc, ça va être une molécule qu'on va détecter qui va, par
Ouais.
exemple, représenter donc, le développement du cancer, ou dans notre cas avec ELSI, un biomarqueur de dégradation de la masse graisseuse. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est une molécule qui va permettre de s'assurer qu'effectivement l'organisme est en train de consommer sa masse graisseuse. Et ensuite, le biocapteur, ça va être le système qui va permettre de détecter
Qui va le
ce
détecter.
biomarqueur, cette molécule.
Et je pense que tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Du coup, vous cherchez à développer ça avec ELSI. Qu'est-ce que c'est ELSI? Si tu pouvais nous le définir en long et en large, qu'est-ce que vous proposez et à quels besoins vous répondez aujourd'hui?
Donc, ELSI, notre volonté à la base, c'était de se dire, on va proposer de la médecine personnalisée au grand public. Donc, c'est moi ce que j'avais découvert pendant ma thèse, c'était justement essayer de développer des thérapies qui soient personnalisées à la génétique et au métabolisme de l'individu. Parce que lorsqu'on a un traitement pour lequel on dit on a 30% de réponses positives, en fait, c'est pas qu'il y a 30% de réponses positives, c'est qu'il y a 70% des personnes pour lesquels le mauvais traitement est administré. Donc en fait, c'était se dire, cette philosophie de personnalisation à l'extrême, on va essayer de l'appliquer au grand public. Et là encore, il y a peut-être une crainte de ma part de la difficulté, c'était de dire, bah, le domaine de la santé, ça va me prendre 15-20 ans, ça va être extrêmement réglementé. Donc on va essayer plutôt d'aller sur le bien-être, mais à la limite,
Ouais.
bien-être santé. Et quelque chose qui m'a toujours un peu gêné, c'est le monde justement de l'alimentation et du sport, où on a l'impression que tout le monde peut s'improviser expert, qu'on a souvent des conseils, donc on les suit, et on n'arrive pas à en mesurer l'impact. Et pour moi, ce qui était important, c'était mesurer le résultat, c'est-à-dire lorsque je fais quelque chose, je veux que ça soit fait de façon scientifique, et surtout, je veux le faire pour une raison et avoir les résultats, et pas distinguer en fait la croyance de la réalité et de ce qui allait vraiment être efficace. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on est en train de monter avec ELSI, c'est-à-dire on analyse donc les conséquences de l'alimentation et de l'activité physique sur la perte de masse grasse en analysant une goutte de sang. Donc on va regarder des biomarqueurs de dégradation de la masse graisseuse en se disant on va se concentrer sur un objectif, c'est les personnes qui veulent perdre du poids, plus précisément perdre de la masse grasse. Donc déjà on va se concentrer et s'assurer que lorsqu'ils perdent du poids, c'est bien de la masse grasse qui est éliminée, et surtout qu'on va éviter tout ce qui est fort inutile. Et que lorsqu'on donne une recommandation en disant bah, tiens, prends ce complément alimentaire, c'est un brûleur de graisse, fais ce type d'exercice, effectivement, ça a l'impact attendu. Parce que ce qu'on voyait beaucoup et ce que j'expérimentais moi-même, c'était que sur deux personnes, lorsqu'on va avoir le même régime alimentaire, la même activité physique, on va avoir une composition corporelle qui peut être totalement différente. Et
Complètement.
donc, c'est répondre aux besoins de chacun. Et ça, le seul moyen de le faire, c'est mesurer le résultat et avec le biais de ma formation, qui était essayer de comprendre ça au niveau moléculaire, et donc de se dire, on va regarder immédiatement après l'effort, est-ce qu'effectivement ce que je fais est efficace, et donc je vais pouvoir agir et modifier mon comportement en temps réel, plutôt que d'attendre un mois, 2 mois, avant de me dire, bah tiens, finalement, j'ai mangé de la salade toute la semaine, et j'ai pas de résultat, j'ai pas perdu de poids, ou lorsque j'ai perdu du poids, finalement, j'ai perdu ma masse musculaire.
Ok. Et donc ça, vous le vendez directement à des consumers en direct? Comment vous,
Ça,
ça ressemble
c'était
à quoi?
l'idée de départ et la volonté, puisque lorsqu'on a créé ça, c'était très en plein milieu où le CES était à la mode, il y avait les objets
Ouais.
connectés, etc. Donc, si tu veux, c'était l'élément de communication et on y croyait au démarrage en se disant, bon, bah, tiens, on va avoir un système d'analyse du sang qui est portable, qui est comme un wearable, et qui va permettre d'analyser les résultats, etc. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte, comme beaucoup de startups, je pense, que le B2B, c'était plus adapté. Et donc là, on travaille plutôt avec des spécialistes de la perte de poids, du sport D'accord. de haut niveau, qui ont des enjeux aussi de perte de masse grasse sur des sports, donc soit à catégorie de poids, on peut avoir le sport, le judo, on peut avoir également le rugby, sur lequel il y a un fort enjeu sur la composition corporelle, et pour lesquels les joueurs ont peut-être un peu de mal à perdre du poids, et tout ce qui est aussi études scientifiques, donc puisque notre dispositif est un dispositif médical de diagnostic in vitro, donc ça peut être utilisé pour des études cliniques, que ça soit sur des maladies métaboliques, donc ça peut être sur le diabète, sur l'hypodystrophie, ça peut être également pour le cancer, donc dans le cadre de la cachexie, où on a une perte de poids qui est importante, ça peut être une perte de masse musculaire et aussi une perte de masse grasse. Et ça, c'est un marqueur d'aggravation de la situation. Donc en fait, on a toutes ces utilisations de notre dispositif.
D'accord, ok. Donc là, vous passez par les spécialistes qui, eux, vont le prescrire ou l'utiliser directement avec les patients et les patients qui sont aussi côté bien-être, du coup, qui sont côté santé et côté bien-être.
Alors du coup, ils sont plus, pour les sportifs de haut niveau, ça va être côté bien-être, si l'on peut dire, mais plutôt performance, pour la perte de masse grasse. Et finalement, les patients qui sont suivis en clinique, en centre de perte de poids, là, ça va être le côté santé véritablement, puisque ça va avec tout ce qui est prévention des pathologies cardiovasculaires, etc. etc. Mais le côté bien-être à proprement parler, salle de fitness, ça, on l'a un peu mis de côté, parce que justement, ça demande en fait une logistique qui est un peu compliquée, même en termes de communication, etc. Donc, on préfère se concentrer sur les professionnels, et ensuite, peut-être un jour, arriver directement au grand public ou passer au grand public lorsqu'on sera directement sous forme de patch, qui est une évolution donc, de l'analyse de sang.
Ok. Et donc là, concrètement, ça veut dire ça, combien de patients ou de personnes ont été accompagnés ou suivis grâce à ELSI ?
Alors, actuellement, on doit être sur proche du millier de personnes qui a été suivies avec ELSI.
Ok. Et c'est...
Et on travaille. Ouais. C'est également utilisé chez la souris et c'est en phase de test chez le mini-porc également. Donc tout ce qui est modèles animaux qui peuvent servir justement pour l'étude des pathologies.
Pour l'étude, d'accord, ok. Ok, très bien. On va arriver sur les questions de la fin, Cyril. C'était très intéressant. Qu'est-ce que tu dirais de nous raconter ta plus belle réussite avec Innovarion ou ELSI?
Bonne question. C'est vrai que j'ai assez tendance à oublier les réussites. Bah, j'oublie les réussites comme les échecs, en fait, assez facilement. Parce que dès que j'arrive à un point, je suis assez vite insatisfait. Et d'accord. Donc, on a envie de se développer. Donc, je pense que je ne sais pas ce que peut être la plus belle réussite.
Ça peut être un moment ou ça peut être une période. Ça peut être une période aussi. Une période d'euphorie ou de succès qui s'enchaînait.
Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on franchit une étape difficile. Donc ça va être quand on est proche de fermer la société ou qu'on désespère, que ce soit de trouver des fonds ou de signer des contrats et que finalement, on y arrive. On a eu aussi des batailles administratives avec certains institutionnels. Et donc, dès lors qu'on arrive à résoudre cette problématique, pour moi, ça c'est un gros échec, plus que c'est un gros succès plutôt, plus que la mesure du chiffre d'affaires, de la performance. D'accord. On peut être aussi en termes de salariés, nous, ce qui nous importe sur Innovarion, en termes de publications scientifiques. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, pour l'instant en tout cas, de succès où je me dis « ça y est, on est arrivé ». En fait, on est en développement permanent. Donc, ce qui est peut-être un peu dommage parce qu'il faut satisfaire des succès à chaque étape.
Il faut célébrer les petites victoires. Ouais.
Voilà.
Ok. Est-ce que tu as une ressource à recommander, que ce soit un livre, une série de vidéos, un film, un auteur, qui t'a inspiré dans ton aventure entrepreneuriale?
J'ai sûrement énormément de personnes qui m'ont inspiré dans mon aventure.
S'il y en a que tu souhaiterais avoir sur le podcast, n'hésite pas à nous les nommer ou à m'en parler après.
Je reviendrai vers toi.
D'accord.
Mais non, sur le côté entrepreneurial, c'est vrai que à tort, j'ai eu tendance à pas trop lire sur ces aspects.
Ah, t'es pas le seul, hein, je te rassure.
Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à lire finalement certains bouquins sur l'entrepreneuriat, finalement, ça me paraissait, alors quand je vais dire bateau, c'est pas du tout péjoratif, mais finalement, je me disais, je préfère me faire mon
Ouais,
expérience. Ce
d'accord.
qui est dommage parce qu'on apprend plus de l'expérience des autres, etc. Mais ça me paraissait un peu des anecdotes et je préférais justement écouter des entrepreneurs. Alors, j'aurais pas de nom particulier, mais assister à des conférences ou des podcasts. Donc, ce que tu fais, c'est une excellente initiative. Mais j'ai pas de nom particulièrement marquant. Après, je m'imprègne un petit peu de tout le monde, mais c'est vrai que ce qui me gêne un petit peu maintenant dans l'entrepreneuriat et dans le côté startup, c'est oui, toute cette espèce
D'euphorie
de
sur
starification et de
ce qu'il faut
paillettes.
faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ouais,
Voilà. Et je me disais, bon, ben, c'est pas grave, on tente.
Ok.
Alors peut-être que ça permet d'aller moins vite. Donc, ce qui est
Ok.
probablement une mauvaise chose, ce qui est pas terrible,
Permettre
mais en tout
d'aller
cas,
moins
j'aime
vite,
bien.
j'ai jamais entendu ça positivement, mais.
Mais j'aime bien, en fait, avoir mes propres échecs et me dire finalement, je suis dans la situation et j'aime bien être dans la réaction.
Ok.
Ce qui est dommage, parce qu'il y a sûrement moyen d'optimiser ça, mais moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce que je recherche dans l'entrepreneuriat.
Ben,
Donc,
ouais. Vous pouvez trouver ta propre
voilà,
satisfaction.
donc j'aurais pas de livre à te conseiller, mais il y en
D'accord.
a énormément des très intéressants. Ah non, ce que j'ai beaucoup aimé, mais c'est aussi extrêmement bateau, c'est tout ce qui est biographie des
D'accord.
entrepreneurs. Donc on va dire Steve Jobs, Phil Knight, etc.
Phil Knight,
Donc les
ouais.
classiques en tout cas,
Les
ce qui me
trois grosses,
passionne,
ouais.
mais plus que les conseils techniques sur
Ouais.
comment faire face à telle situation.
Ouais,
Et
ouais.
ça, je pense que c'est le biais de ma formation à me dire, bon, mais de toute façon, on teste et on verra.
Ok. Bon, super. Merci beaucoup à toi, Cyril.
Ben, merci à toi.
Et puis, au plaisir d'échanger de nouveau. Et puis, je te souhaite tout le meilleur avec Inovarion et
Avec
Helsi.
plaisir.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.